Salut à toutes et à tous. Offensive Sonore, c'est reparti pour un tour. Pour ce numéro de mai, on part en Colombie. Emmanuel est allé à Bogota à la rencontre de Mercedes, universitaire colombienne. Au cours d'un entretien à bâton rompu, elle nous livre sa vision du contexte politique et social de la Colombie.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être aux côtés de Mercedes. Pour des raisons que vous comprendrez plus tard dans l'interview, nous tairons son identité. Mercedes est économiste et urbaniste colombienne, mais également professeure à l'université publique de Bogota où elle enseigne. Elle fait aujourd'hui partie d'un groupe d'investigation qui travaille sur les dynamiques et l'économie socio-territoriale, ainsi que sur la production de l'habitat. Elle va nous donner sa vision du territoire colombien à travers son travail d'investigation, où se croisent des dynamiques relativement complexes. Bien, merci beaucoup Emmanuel pour l'invitation que tu me fais, pour tes questions. Je crois que l'une des inquiétudes initiales qui surgit de tout ce processus que nous sommes en train de vivre, particulièrement à Bogota et dans les principales villes du pays, concerne la concurrence dans laquelle elles sont entrées en tant que ville néolibérale, pour attirer les investissements étrangers. Bogota, ou plutôt la Colombie, est un pays qui a plusieurs villes de tailles importantes. Bogota en est la plus grande. C'est une ville qui a déjà une échelle bien plus importante que celle des villes européennes. C'est une ville qui est d'une grande complexité. Mais ce n'est pas la seule grande ville. Il y a aussi Medellín, qui est aussi très grande. Il y a Cali. Il y a Cartagena, qui est plus ou moins la quatrième ville en termes de grandeur, d'économie et de population. Il y a Barranquilla, tu vois, on peut mentionner de nombreuses grandes villes qui du coup apparaissent comme ayant une échelle intermédiaire malgré leur grande taille et qui se répartissent dans la moitié nord du pays dans différentes régions. Voilà, Bogota a elle la caractéristique de produire 25% du produit intérieur brut colombien. En d'autres termes, un quart du produit intérieur brut colombien est seulement produit par Bogota, principalement en activité industrielle. Toutefois, la désindustrialisation de Bogota est devenue célèbre. C'est une désindustrialisation qui concerne plus les municipalités qui entourent Bogota. Oui, Bogota est une ville qui est entourée d'une ceinture d'autres villes qui ont créé cette conurbation. Au début, on ne pouvait pas parler de Bogota comme une ville, mais plutôt comme une ville-région. Et Bogota exportait son industrie jusqu'aux autres municipalités de la périphérie, spécifiquement du côté ouest et un peu dans certaines parties du nord. Une autre caractéristique spécifique à Bogota, c'est qu'elle possède une ségrégation socio-spatiale très très marquée. Ce qui a comme conséquence que les gens de petits revenus vivaient traditionnellement dans la zone sud et la zone ouest, alors qu'à cause de l'histoire du développement urbain de la ville, l'élite vivait elle plutôt au centre. Et ensuite, ils se sont déplacés en longeant la montagne, peu à peu vers le nord, en créant donc des quartiers en direction du nord. Ces quartiers ont peu à peu, disons, été inoccupés. Évidemment, ces logements sont devenus le nouveau destin des classes de petits et moyens revenus, en redivisant les logements, en créant des maisons partagées, ce que nous appelons ici los inquilinatos.
Subdividiéndose las viviendas y haciendo pues casas de vivienda compartida, lo que nosotros llamamos inquilinatos. La Bogotá es una ciudad.
Voilà, maintenant Bogota est une ville de services. À l'intérieur de ces services, on voit se démarquer le commerce, la télécommunication et toutes ces choses qui permettent à Bogota de se voir comme une ville attractive pour le développement, pour le tourisme, pour le développement du commerce, et du coup elle entre en concurrence avec d'autres villes latino-américaines.
Pour le tourisme, pour le développement des negocios, entonces entra en compétence avec d'autres ciudades latino-américaines.
Elle a du coup un point important dans la balance face aux autres pays d'Amérique du Sud. Oui, oui, je sens que Bogota est entrée dans une compétition effrénée, d'une certaine manière, parce que Caracas a perdu le rôle du protagoniste qu'elle avait en Amérique du Sud, et Bogota cherche la manière de la remplacer. Elle est entrée en concurrence avec une ville qui est très proche, qui est celle de Panama, et qui aurait aussi les moyens de recevoir, par exemple, tous les vols que reçoit Caracas, tout le tourisme, toute cette série de choses. Mais bon, traditionnellement, on va dire qu'en Amérique latine, la polémique du quelle est la ville la plus développée, la plus créatrice, la plus tout ça, la plus grande a été Sao Paulo, au Brésil, qui a du genre 25 millions d'habitants à elle seule. Il y a la ville de Mexico, il y a Buenos Aires aussi, qui est un étalement urbain très important, enfin le Grand Buenos Aires. Il y a Rio de Janeiro, qui est aussi très grande par sa superficie et pour sa quantité d'habitants. Et après vient Bogota. Du coup, ça serait la cinquième ville la plus grande d'Amérique latine. Mais sur le plan du commerce, c'est Miami qui ressort comme la plus attractive pour la qualité de vie qu'elle offre, la quantité de services, pour le tourisme, etc. Et Santiago, qui est aussi une ville qui a une bonne qualité de vie, bien organisée, avec des transports performants, bien plus que celui de Bogota. Bogota cherche à devenir plus attractive au niveau touristique pour faire du commerce, mais aussi pour attirer le tourisme traditionnel en valorisant son centre historique, son
patrimoine.
Mais il y a en plus ce que l'on appelle l'économie de la connaissance. C'est une série d'activités autour de l'investigation. Bogota commence à se perfectionner comme un site très important pour l'investigation sur le génome, sur le bionique. Bon, elle a une médecine de haute technologie et du coup la Colombie entre dans tout ce panorama. Elle souhaite développer la recherche de pointe pour l'offrir au monde et pour toutes ces raisons, Bogota est déjà un site de tourisme de la santé. Du coup, il y aurait, comme on a pu le voir, ces trois aspects qui se détachent à l'intérieur du même tourisme. Bogota offre déjà une série de choses comme l'accès aux marchés internationaux. Quand tu es arrivé, tu as vu combien l'aéroport El Dorado s'est déjà développé. Il déplace un volume de charge le plus important d'Amérique du Sud. Il est même au-dessus de celui de São Paulo. Et pour le transport de personnes, c'est le troisième. Mais déjà, avec les agrandissements qu'ils ont faits, ils espèrent devenir le premier. Du coup, tout ce développement de l'aéroport, toutes ces séries de transformations qu'ils ont fait, tout ça est intimement lié au tourisme, à cette économie de la recherche qui est en train de s'ouvrir. L'aéroport a subi une série de transformations et les municipalités qui sont autour ont maintenant des zones franches, des zones de stockage, des zones de marchandises, toutes ces choses. Bon, la zone franche est définie de manière différente. Parce que traditionnellement, la zone franche est un site où arrivent les marchandises, où elles attendent ici, on va dire dans un espace qui n'est à personne, en attendant qu'on la rende légale, et enfin les marchandises peuvent entrer dans l'économie nationale. Mais dans ce cas, la zone franche a une nouvelle définition qui a été créée lors du précédent gouvernement d'Alvaro Uribe, où la zone franche est devenue un site qui a de quoi offrir.
En donde la zona franca es un sitio que va a ofrecer una serie de exenciones de impuestos nacionales.
Il y a une série d'impôts nacionaux et locaux spécifiques pour le site en faveur des investissements étrangers. Une entreprise qui vient ici, selon son volume d'activité économique, peut se constituer elle seule une zone franche, du coup, où elle a des réductions sur une quantité de choses. En d'autres termes, ce qu'on peut comprendre, c'est que des petits paradis fiscaux sont en train de se constituer ici, dans chacune des zones franches, pour que les investissements étrangers entrent et fassent comme bon leur semble.
Entre y actúe como quiera, ¿sí? Y también, bueno, el aeropuerto, todas esas adecuaciones que se han hecho.
Du coup, l'aéroport et toutes ces choses qu'ils ont faites, c'est une porte ouverte pour de grandes quantités de produits qui viennent de toutes parts de Colombie. Et tout ça est très lié directement à la fièvre des minerais qui est actuellement en ébullition en Colombie.
Qui est ahora en Colombia haciendo toda su ebullición.
Il y a une grande quantité de titres miniers, plus de 9000 titres miniers dans tout le pays. Et ça représente une surface extrêmement grande du pays, de telle sorte qu'entre les limites, qu'entre les titres miniers déjà approuvés, ceux qui sont en train d'être étudiés pour être votés, on est arrivé à 45 millions d'hectares. 45 millions d'hectares. Je pense que c'est peut-être aussi grand que l'Europe. En superficie, ça signifie 40% de la surface totale du pays. Ces 40% de la superficie sont déjà ou vont être données à des concessions pour l'exploitation d'une énorme quantité de minéraux et de matériaux, combustibles, métaux, des pierres précieuses, des hydrocarbures, quel qu'en soit le prix à payer.
Piedras preciosas y hidrocarburos, ¿sí? Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Pues empresas.
Et qui est derrière tout ça? Eh bien, les entreprises nationales d'envergure. Donc ces entreprises sont en train d'arriver et de réaliser, entre autres, l'exploitation de tous ces matériaux à ciel ouvert, avec en plus le fait que ce que l'on vient de voir, tous les contrats permettent de payer des salaires extrêmement bas. Et dans ces exploitations de mines, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des conditions d'esclavage moderne. En plus, beaucoup de ces mines sont au-dessus de ces réserves naturelles d'eau du pays et la planète. Et de la planète, parce que la Colombie est un réservoir d'eau pour toute la planète. Et rien de ceci n'est pris en compte.
Muchos de ellos están por encima de las reservas naturales del país y del planeta, porque Colombia es un reservorio de agua para el planeta, claro. Y eso no se ha considerado, ¿sí? Uh-huh. Colombia está atravesada por una diagonal y hacia arriba.
Il faut savoir que la Colombie est traversée par une diagonale montagneuse, la cordillère des Andes.
Bastante fuerte, bastante marcada.
On a affaire à une topographie montagneuse très forte, très marquée.
De animales, de fauna, de flora, uh-huh. ¿Sí? Casi el 98% de las
qui nous permet d'avoir tous les climats et une grande variété de faune et de flore. 98% des espèces de papillons existant sur la planète sont ici. Tout ça est d'une grande fragilité pour toutes ces raisons. La Colombie est le quatrième pays de production d'eau. Il y a une région où il y a tant d'eau qu'il y a des endroits où il pleut quasiment 24 heures sur 24. Et c'est une forêt extrêmement dense. Le développement de cette zone est extrêmement lent, avec un indice de pauvreté énorme. Là-bas vivent des populations de descendants noirs africains et cette zone a été particulièrement touchée par le paramilitarisme, par les déplacements.
Y ha sido una zona supremamente castigada por el paramilitarismo, por los desplazamientos.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Fortuna, solo su atarraya. con la playa. No tiene por rotura.
Toto la Mompocina sur Radio Zenzine avec El Pescador. On retourne auprès d'Emmanuel qui s'entretient avec Mercedes, économiste et urbaniste colombienne à propos de la situation politique de son pays.
La Colombie, depuis le début de son histoire, a été très marquée par ses guerres civiles. Son indépendance a été marquée par des batailles qui ont duré pendant 9 ans. Et après cette indépendance, les guerres civiles ont continué de s'étendre dans l'histoire. Mais c'est à partir de ce siècle, à partir des années 40, qu'est née une violence très marquée et reliée au type de propriété terrienne et aux partis politiques qui, en Colombie, étaient au nombre de deux. Et si par malheur arrive un autre parti, alors il se passe toujours plein de choses pour lui mettre la pression. Ici, il y a même un arrangement, un traité qui a été signé par les deux parties, qui s'appelle le Front National. Et où il est dit qu'au lieu de se disputer, les libéraux et les conservateurs doivent faire la chose suivante. C'est qu'une fois les libéraux gagnent, l'autre fois ce sont les conservateurs. Du coup, les élections se résument en fait à savoir quel libéral va gouverner cette fois et quel conservateur gouvernera la prochaine. Du coup, tu t'imagines quelle possibilité il y a de démocratie, de participation d'autres partis ou encore d'expression. Je disais donc, il y a un conflit très fort relié à la propriété des terres. Les propriétés terriennes colombiennes sont extrêmement concentrées et c'est comme ça depuis la colonisation. Il n'y a jamais eu de réforme agraire et les grands propriétaires fonciers ont détenu le pouvoir sur ces terres. Il y a donc une structure politique de tyrannie qui a sa petite armée, ses petits ouvriers et qui contrôle les richesses, qui contrôle tout. C'est une structure de pouvoir qui ne se modifie pas, à moins qu'on puisse avoir des élections et toutes ces choses, mais sinon cette structure reste en vigueur.
C'est une structure de pouvoir de telle manière.
C'est une structure de pouvoir faite de telle manière que l'indice de concentration de la terre, l'indice Gini, lorsque cet indice est en situation idéale, les qualités sont parfaites, c'est qu'il s'approche de zéro. Et lorsqu'il s'approche de 1, c'est que l'inégalité est totale, c'est que le territoire est propriété d'une seule personne, d'une seule famille. Nous, nous avons un indice Gini de 0,86%. Et pendant les années 90, il y a des auteurs qui disaient que la concentration des terres était à 0,91%. C'est-à-dire qu'il y avait un niveau de concentration tellement fort qu'il était possible pour les, il était impossible pour les paysans ou autres personnes de vivre là-bas. Il y avait des paysans salariés. En sociologie, on a beaucoup parlé et travaillé sur un phénomène que l'on appelait les familles sans terre, parce qu'elles étaient des familles qui allaient cultiver, qui mangeaient, mais qui restaient complètement nomades. ou qui louaient une petite parcelle de terre, mais ils ne possédaient pas les terres, ils travaillaient pour d'autres.
No poseían tierra, trabajaban para otro. Entonces, bueno, con una concentración de tierra de esa
naturaleza. Donc, avec cette concentration de terres, de ressources et de pauvreté de ce type-là, la pauvreté a toujours été un facteur très important et très marqué. Et dans la tradition de culture des terres du pays apparaît la marijuana. Il y a une mouvance marimbera, comme on l'appelle ici. Elle s'appelait Marim Alam, de son nom, on va dire, familier. Et après cette mouvance marimbera, bien sûr, on voit aussi la mouvance caféière et plein d'autres choses. Parce qu'il me semble complètement odieux de donner cette idée que donnent les films nord-américains où il y a un seul chef paramilitaire et il envoie tous ces gens en jeep par là-bas ou par là et les gens souffrent et ne font rien. Ok, ça c'est une caricature et ce n'est pas un fait réel.
Cierto, es una caricatura y es una cosa que no es real, ¿sí? Pues tú ya viste, la gente se mueve, hace una cantidad de cosas, claro. Tiene muchas actividades.
Tu l'as vu, les gens se bougent, font une grande quantité de choses, ont beaucoup d'activités, et la manière dont est faite ce contrôle, la manière dont la population est attachée, est beaucoup plus subtile que ce que montrent les films.
Pero están, y bueno, y en el campo ya no son tan sutiles cuando aparece.
Mais bon, à la campagne, les choses ne sont pas si subtiles déjà quand apparaît le narcotrafic. Le narcotrafic commence à laver l'argent sale en achetant des terres, toujours un peu plus de terres, et évidemment, ça génère une pression sur le prix de ces terres.
Obviamente, esto generaba una presión sobre el precio de la tierra, ¿no?
Et il disait aux gens, vous devez nous vendre vos terres. Et eux disaient, non, non, je ne veux pas vendre mes terres parce que c'est la maison de ma grand-mère, de ma famille, c'est notre terre. Et donc, rattaché à ce narcotrafic, apparaît le paramilitarisme comme une armée qui accompagne le narcotrafic. Ils virent aussi des gens en faveur des grands propriétaires terriens, mais ils accompagnent aussi les entreprises nationales et internationales qui ont déjà fait ici une série de choses et tout le monde le sait. Lorsque García Márquez raconte l'histoire des 100 ans de solitude des plantations de bananes, on croirait presque que ce sont de jolies anecdotes. Lorsque tous les paysans étaient sur place et que l'entreprise La Bananera les a tous tués rapidement, c'est devenu un souvenir qui passait de génération à génération. Mais ce sont des choses qui ont bien eu lieu dans le passé et qui continuent de se dérouler et qui aujourd'hui se passent encore. Et même après tout ce qui s'est passé, et même si nous sommes sous un gouvernement plus démocratique, ces choses aujourd'hui continuent de se redérouler. Donc cette armée de paramilitaires s'est formée, et le conflit entre paramilitaires et la guérilla n'a absolument pas respecté la population civile, les droits de l'homme étaient comme inexistants, et ça a été des actions d'une cruauté épouvantable.
Colombia detentó durante algún tiempo el segundo lugar.
La Colombie a été le second lieu au niveau mondial qui générait de l'exode humain. On compte autour de 5 millions de déplacés. Ça veut dire que pour 100 Colombiens, 11 ont été déplacés de leur terre. Et il me semble que ce chiffre est absolument dramatique et terriblement douloureux.
Absolutamente dramático, absolutamente pues doloroso para nosotros como colombianos, ¿cierto? Sí. Y es que pensar eso, ¿no? 11 personas de cada 100 es un dato.
¿Y dónde se fueron estas personas? ¿Más en las ciudades grandes o más afuera del país?
Pues esas personas,
et où sont partis ces gens, plus dans les grandes villes, à l'extérieur du pays? Quasi toutes les municipalités de Colombie ont assisté à l'expulsion de gens. Je t'explique comment ça se passait. Il y a un groupe armé qui arrive, personne ne sait qui ils sont, enfin si tout le monde sait qui ils sont, mais ils sont sans identité. Ils arrivent à un endroit, ils viennent avec une liste. Ils commencent à appeler des noms. Généralement, ce sont des hommes en âge de productivité. Ils réunissent tout le monde sur la place principale du village et devant tous, ils leur font une série de tortures. Comme par exemple, ils coupent petit à petit des parties du corps à la tronçonneuse ou à la machette. Ou bien ils amènent des petites filles du village et ils les violent devant toute la communauté. Et bien d'autres choses encore de ce type. Du coup, quand les gens voient ce qui se passe, tout le monde tente de prendre les affaires qu'ils peuvent et ils s'en vont n'importe où. Généralement, les gens s'en vont pour la ville la plus proche parce qu'ils ont toujours à l'esprit que les paramilitaires ne sont jamais loin, qu'il peut encore se passer des choses. Ce qui se passe est terrible, on est là en train de parler de 5 millions de déplacés, ce qui signifie qu'il y a un pourcentage extrêmement important de gens qui ont de la famille proche, qui sont morts lors de ces actions. Ce phénomène a été tant important qu'il a touché tant de personnes qu'il a réussi à transformer la structure productive du pays. Dans les champs, il n'y a déjà plus ceux qui produisent. Les narcotrafiquants s'accaparent les terres et ils l'utilisent pour la grande production. Et de l'autre côté, celui qui avait sa terre ne la cultive plus car il doit partir pour la ville. La conséquence de ça, c'est qu'on a perdu la sécurité alimentaire du pays. Mais bon, ça, c'est un autre thème qu'on ne va pas traiter maintenant. Revenons donc aux déplacés. Les déplacés s'en vont donc à la ville suivante ou à la ville qui est sur leur chemin. De toute façon, lorsqu'ils arrivent dans cette ville, beaucoup se cachent et tentent de s'adapter, mais beaucoup sont persécutés parce qu'ils les connaissent, pour ce qu'ils ont vu, ils ne peuvent pas raconter. Il y a eu beaucoup d'aide de gens d'église, de groupes, de tout ça, mais il y a des familles qui ont souffert de deux ou trois déplacements et tout ça engendre que les villes comme par exemple Bogota est un lieu d'asile des populations de ces déplacés.
Un gran receptor de población desplazada. Por eso hay mucha gente en los semáforos pidiendo.
Et c'est pour ça qu'on voit tant de gens qui tendent la main au feu rouge. C'est parce que ce sont des gens qui viennent de la campagne, ce sont des gens qui avaient leur terre, leur vache, qui aujourd'hui demandent de l'aide aux habitants, mais les gens de Bogota ne s'intéressent pas à ce qui se passe.
El resto del país están desplazando y masacrando.
Pendant que dans le reste du pays, ils sont en train de déplacer, de massacrer des gens et de faire une quantité de choses horribles. À Bogota, on est en train d'inaugurer des concerts de rock al parque, salsa al parque, jazz al parque, une quantité de choses pour que les gens soient occupés par ça et qu'ils ne s'occupent pas de ça.
Con el gobierno de Uribe, obviamente, hay un fortalecimiento muy grande.
Et avec le gouvernement d'Uribe, évidemment, il y a un renforcement très important. Lorsqu'Uribe est devenu gouverneur de Cundinamarca, il a créé des entités qui s'appelaient Vivre Ensemble, qui étaient comme de petits groupes de surveillance de l'autre. Disons que sous le déguisement du « il faut protéger et faire attention à la ville », ils profitent pour instaurer toute cette série de choses. Il y a donc un renforcement très important durant les deux périodes du bébé.
Demasiado inmanejable.
Il me semble très important de voir comment ces personnes qui arrivent à la ville sans un lieu où ils peuvent être reçus font.
Sino más como a olvidarlos.
Évidemment, il y a des organismes qui tentent de travailler avec ces déplacés, mais c'est un problème bien trop grand, ingérable. En plus, les politiques n'ont pas choisi de les aider, mais plus de les oublier. Et donc, avec une ville où le narcotrafic a beaucoup influencé la valeur du sol, où s'est approprié une grande quantité de sites et tout ça, la valeur des locations a augmenté de manière abusive. Donc, ce sont des personnes qui n'ont aucun, mais alors aucun endroit où vivre dans la ville. Et ces mêmes personnes sont de nouveau expulsées vers la périphérie de la ville pour chercher des logements moins chers dans des lieux où il y a beaucoup de dangers, beaucoup de menaces en tout genre.
Bueno, en áreas centrales también. Bogotá recibe desplazados en casi que todos sitios.
Et dans les centres-villes aussi, comme par exemple celui de Bogotá, qui reçoit les déplacés de toutes parts, dans certaines zones, beaucoup plus que d'autres, il y a des lieux de réception que l'on appelle los inquilinatos, dont je vous parlais au début, qui sont ces vieilles maisons qui ont été divisées et subdivisées avec du bois ou du carton pour différencier une chambre d'une autre. Et se sont construits ce que l'on appelle ici leur pagan diarios, paye par jour, littéralement. Tu payes pour dormir. Il y a beaucoup de lits par chambre et du coup, tu peux avoir la chance que toute ta famille soit dans la même chambre et qu'il n'y ait personne d'autre. Disons qu'il y a une certaine intimité. Tu peux dormir dans un lieu sale, très peu entretenu, très tout ça. Les toilettes sont communes, la cuisine, s'il y en a une, elle est partagée, mais dans beaucoup de cas, tu n'as pas tout ça. Du coup, tu dois dormir avec tes enfants, avec ta famille, dans un lieu que tu partages avec un tas d'autres gens que tu ne connais pas, et là, il y a un
risque. Por otro montón de gente que no sabes quién es y hay un riesgo, ¿sí? También puede suceder que te toque dormir en la calle, ¿sí? En Bogotá, por ejemplo,
mais hay, aussi, il y a des cas où tu dois dormir dans la rue. À Bogotá, par exemple, il y a un peu de 8400 habitants de la rue. C'est-à-dire que pour chaque 1000 habitants de Bogota, il y en a un dans la rue. Et un habitant de la rue, c'est une personne qui n'a pas de maison, qui dort sous un pont, dans un petit recoin de la rue. Et ça peut se passer facilement si tu viens à Marseille, qui est une ville relativement chaude. Mais Bogota, il fait un froid horrible toute l'année, parfois des températures épouvantables en dessous de zéro.
Pero en Bogota, hace un frío horrible todo el año. Caen unos aguaceros espantosos. Entonces es una situación muy complicada para una persona que vive en la calle. Muchas personas viven.
C'est donc une situation très compliquée pour l'habitant de la rue. Beaucoup de gens vivent dans les égouts. Ils lèvent la plaque de l'égout et beaucoup vivent là pendant des mois. Là-dedans, ils ont une certaine protection, ils cherchent un petit trou, un recoin où ils peuvent vivre avec leur petit groupe qui se connaît et partagent une série de choses qu'ils font. Et ils font attention les uns aux autres.
En donde arman pues ya su parche, su grupo con los que se conocen, con los que comparten una serie de cosas, se cuidan y todo eso.
En el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, es toda una conexión como un corrillo. Chocó, Valle, Coco y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al cucho. Bueno, dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrillan, hablan jergueado. Te preguntas si no has jangueado, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado, si dejaste el que está malo o te lo has rumbiado. Hay mucha calentura en Buenaventura. Y si sos chocuano, sos arrecho por cultura. ¡Ey!
Somos Pacífico. La pinta, la raza y el don del sabor. Somos Pacífico.
la sangre colorida está por la tierra. No hay quien se me pierda con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan por la mamá y hasta por los rostros. Étnicos, estilos que entre todos se ven. La forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime qué me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, ea. Donde se ven un pico y juran que fue un beso. Donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso que no te he hablado
de Buenaventura.
Donde se baila el currulao, salsa un poco pegado. Puerto fiel al pecado, negras grandes con gran tumbao. Donde se baila guabajo y pasillo. Al lado del río con mis prietillos. El puerto Cauca, seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándolo a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general, acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar, después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos, con nuestra bambara y con el caché, venga y lo busque mismo, pa' ver cómo es, y yeah. Piensa en lo que se puede perder y yeah, pura calentura y angelé y yeah. Ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café.
Chop Keaton avec Somos Pacifico sur la Zinzine. On retrouve Mercedes, économiste et urbaniste colombienne, qui nous parle plus précisément de Bogota.
Bogota es una ciudad que ha crecido. El 45% de la ciudad.
Bogotá es una ciudad que ha crecido
de origen informal.
El 45% de la ciudad se construyó de manera informal.
Sí.
Du coup,
sí,
les favelas sí, son nées des conséquences des déplacés ou existaient déjà avant
claro,
ça?
Claro, por una pobreza histórica.
Oui, nous on les appelle les quartiers informels. Ils naissent d'une pauvreté historique. La structure des terres a été si forte, si fermée depuis la colonisation.
Desde la colonia hemos tenido una estructura de impuestos.
Nous avons eu une imposition très forte, du coup les gens ont été historiquement pauvres.
Pobre,
et les déplacements sont venus renforcer cette pauvreté. La ville s'est vue comme le site des opportunités.
Et la ciudad se visualiza como el sitio de las oportunidades, ¿cierto? Eso pasó en todas las ciudades, ¿cierto? En todas las ciudades latinoamericanas pasó con mucha más fuerza y en ciudades como
este fenómeno se pasó en todas las ciudades sudamericanas.
La gente es, sabe que por lo menos hay médicos, sabe que por lo menos hay
tu sais que dans une ville il y a au moins un médecin qui
que estas personas las hemos convertido en parias dentro de su propio país, ¿sí? Son personas que no tienen un espacio físico, no hay
ces personas on les a transformées en étrangers dans leur propre pays. Ce sont des gens qui n'ont pas d'espace physique, il n'y a pas de lieu pour eux, pas la moindre possibilité. Où est le droit de ces personnes? Où est le droit que la Constitution leur confère dans une grande quantité d'articles consacrés au logement, à la sécurité, à la paix? Ça n'existe pas pour eux.
Qu'est-ce qui se passe pour eux? Pour
tout ce qui leur est arrivé? Parce que ces personnes qui arrivent déplacées ont leurs parents, leurs frères, leurs enfants qui sont morts dans cette violence.
Murieron en esa violencia, ¿cierto?
¿Y qué pasa con los juicios?
Pues han habido unos juicios muy simpáticos.
¿Y qué se pasa-t-il con los procesos de los actores de esas violencias?
Bueno.
Eh bien, il y a eu des procès très sympathiques. Je ne sais pas si tu peux traduire ça.
Ici,
durant le gouvernement précédent, il y a eu une amnistie pour les paramilitaires.
Et si ellos contaban al país lo que habían hecho, entonces les iban a facilitar muchísimo las cosas, porque pues mostraron su buena voluntad.
Sí, decidí de bien vouloir raconter au pays ce qu'ils avaient fait.
Mirar como una cárcel. Sí.
Alors, on leur faciliterait beaucoup les choses parce qu'ils allaient montrer leur bonne volonté et du coup, on leur a ouvert les micros nationaux aux chefs paramilitaires et à ceux qui voulaient bien venir raconter. Et tout le monde écoutait comme une sorte d'hallucination les choses qu'ils avaient faites. Je t'ai raconté les mutilations qu'ils faisaient à la tronçonneuse, etc. C'est parce que je l'ai entendu
ici. Entonces, todo un país paralizado como cuando va a haber partido de fútbol, escuchando los horrores que contaban, escuchando cosas de una aberración
terrible. Il y avait là tout un pays paralysé quand il va y avoir un match de football, qui écoutait les horreurs qu'il racontait, écoutant des choses d'une véracité terrible, comme par exemple ce qu'il devait faire pour s'initier, boire le sang de celui qu'il venait de tuer à la machette, une grande quantité de choses épouvantables.
Par exemple,
lorsque j'ai rencontré l'autre jour ce monsieur qui faisait une exposition en photo sur les déplaçados dans la rue, j'ai appris que certains paramilitaires avaient tué à eux seuls 1600 personnes. Oui, par exemple. Mais c'est une seule personne qui tue 1600 personnes, c'est totalement dingue. Mais que pense cette personne? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête pour faire ça? Mais il s'est confessé, alors il a montré sa bonne volonté, du coup le gouvernement laisse cette personne tranquille.
Et
qu'est-ce qui se passe maintenant?
Beaucoup
de paramilitaires se sont démobilisés, beaucoup ont dit qu'ils ne se démobiliseraient pas. Ils allaient continuer de s'amuser et parmi ceux qui se sont démobilisés, certains groupes ont ressurgi avec les noms démobilisés. Du coup, lorsque l'on parle de ces très fameuses Bakrim, bandes criminelles, ce sont eux, ce sont des groupes qui continuent d'agir aujourd'hui. Le narcotrafic est une organisation mafieuse et les paramilitaires sont les militaires de cette structure. Et ils se disputent pour savoir à qui revient le contrôle des zones du pays, celle de Bogota.
Tú ves lo grande que es la ciudad, ¿cierto? Es enorme. Sin embargo, llegaron dos grupos, uno que venía de los Llanos, otro que venía del otro lado, a disputar.
Tu vois la grandeur de cette ville, elle est énorme. Et du coup, c'en est deux groupes qui se disputent le contrôle de la ville. Le contrôle de quoi? Le contrôle des vendeurs ambulants, par exemple. Ils ne peuvent pas se poser dans un recoin de la rue et vendre leur sucrerie comme ça parce qu'ils doivent acheter cet espace pour pouvoir le faire.
Ils doivent
payer comme un loyer pour leur place à la mafia durant le temps où ils l'utilisent. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert lorsque j'ai étudié cette zone de Martigues. Quelle était cette pression au sein de l'espace public et jusqu'à combien ils allaient devoir payer? Jusqu'à 5 millions de pesos, qui sont 2 500 $. Ce qui est énorme pour quelqu'un qui vend dans la rue. Comment fait cette personne pour payer 5 millions de pesos par mois en vendant des sucreries et pour louer cet espace et réussir à vivre? Évidemment, en plus de vendre des sucreries, il doit servir à la mafia en faisant de la surveillance de qui vient, qui ne vient pas, distribuer la drogue par-dessous la table. Ils font ça spécifiquement dans des quartiers, par exemple à Ciudad Bolívar, l'une des favelas les plus grandes d'Amérique latine. Du coup, dans des sites comme ceux-là, au nord aussi, sur la petite colline, enfin dans divers sites, les paramilitaires exercent leur contrôle et les gens ne peuvent ni entrer ni sortir aux heures qu'ils veulent.
Ellos dicen la gente no puede entrar después de las 8 de la noche.
Du coup, c'est eux qui te disent. Les gens ne peuvent pas rentrer chez eux après
20h.
Particulièrement les hommes. Celui qui rentre après 7h, on le tue. Et si tu penses que tu vas arriver en retard chez toi, il vaut mieux passer la nuit dans un autre endroit, parce que si tu rentres après 20h, ils te tuent. Et on trouve tout le temps un ou deux mecs du quartier morts. On parle là d'un quartier qui contient 800 000 à 1 million d'habitants. Et ça arrive régulièrement, toutes les semaines, tous les mois. Oui, évidemment, pour maintenir la peur dans la tête des gens.
dependiendo de las personas.
Cette peur est aussi maintenue grâce aux papiers, ce qu'on appelle los volantes, qu'ils font tourner également dans la ville. Et ils le font en uniforme ou en civil? Si, en civil. Tout le monde sait qui ils sont. Et voilà, ils distribuent les volantes et qui visent spécifiquement un groupe. Là où j'ai un volant, si tu
y te puedo mostrar un volante. ¿Y quieres? Bueno, aquí tengo un volante que dice Águilas Negras, Bloque Capital, Distrito Capital. Hoy damos inicio de limpieza.
Le voilà.
Se supone que es
limpieza. Il dit Águilas Negras.
A todas las sucias
aujourd'hui, nous donnons ordre d'un début de nettoyage. On peut facilement comprendre là qu'il parle de nettoyage social. À toutes les organisations qui s'interposent sur notre chemin. Nous avons envoyé un communiqué dans le centre-sud et le sud-ouest aux organisations de sales filles de pute qui veulent se la jouer avec leur défense des droits de l'homme par le biais de l'expression artistique et qui s'opposent à la politique de notre gouvernement. Ensuite, ils énumèrent une grande quantité de compagnies de théâtre, et peu importe ce qu'ils présentent si ça ne leur plaît pas.
Non, important si están protegidas, mal paridas. Mal paridas es una grosería fuerte.
Et ils terminent.
Porque igual no les va a servir de nada.
Il nous importe peu si vous êtes protégés, mal baisés, parce que ça ne vous servira à rien. On vous donne un délai de 8 jours pour abandonner la ville, connard de merde, fils de pute, nous ne sommes pas en train de jouer. Sale chien et chienne dégueulasse, ne cherchez pas, nous sommes en train de vous éliminer un par un.
Pues es lógico que haya desplazamiento, que haya. Sí, a mí algunas personas me decían, pero es que ustedes no hacen nada. Yo creo que hacemos mucho.
Du coup, ben, suite à ça, c'est logique qu'il y ait des déplacements de gens. Moi, j'ai des gens qui m'ont déjà dit, mais vous ne faites rien. Moi, je crois qu'on fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais quand il y a ce type de choses qui menacent ton travail, ta production artistique, qu'est-ce que tu ferais, toi? Et ça, par exemple, ça apparaît dans le centre, collé sur les poteaux électriques.
La limpieza social son las prostitutas, los habitantes de calle, ¿sí? Y así en esos términos. Entonces,
lorsqu'il parle de nettoyage social, il parle des prostituées, notamment des gens qui habitent la rue. Et ils te le disent comme ça, dans ces termes. Normal. Et là, on sait qu'on va voir apparaître des enfants. Généralement, ce sont des enfants ou des habitants de la rue qu'on retrouve morts, des gens de la prostitution qu'on retrouve morts aussi. Et il y a des gens qui quittent le pays. Oui, bien sûr, ils partent désorientés.
Exactement.
Par exemple, ces groupes de théâtre qu'on vient de citer, ils s'en vont.
Y es que mire, les dan 8 días.
Oui, Erika nous a raconté ses amis de théâtre qui ont dû partir comme ça pour le Chili. Ils ont eu 8 jours. C'est très peu pour quitter sa vie et en trouver une nouvelle ailleurs.
Ou estas amenazas así con nombres y todo.
Moi, j'ai une grande quantité de collègues professeurs de l'université qui ont reçu des menaces avec leur nom dessus et tout. Ou bien des souplagios. C'est quoi le souplagio? C'est la carte noire que l'on envoie aux gens lorsque quelqu'un meurt, le faire part que l'on envoie à la famille. Par exemple, une prof qui était en train d'étudier les déplacements et tout ça, elle a dû partir en courant avec tout son groupe de recherche.
De medicina o de biología o de algo que estaban trabajando sobre ADN.
¿Sí? Il y avait un groupe d'étudiants ADN, en médecine ou biologie, ¿sí? Je ne me rappelle plus très bien, entonces, qui était en train de travailler sur l'ADN. Et du coup, à travers leur investigation, les corps, ils risquaient de trouver qui avait été les assassins et de savoir une grande quantité de choses qui auraient pu être découvertes. Et paf, ils les ont menacés. Le professeur et tout le groupe d'étudiants. Du coup, ben, quoi que ce soit qui ait un lien avec eux ou qu'ils n'apprécient pas.
Que non les guste. También, entonces, han habido muchos casos de.
On a vu aussi beaucoup de cas de professeurs qui ont réagi à ça en disant « c'est ma carrière, c'est mon travail, personne ne me fera bouger de là ».
Je n'ai pas peur de tout ça. Et pendant qu'ils sont en train de donner le cours, un groupe de paramilitaires entre dans la classe et ils le tuent. Ils sont devant les élèves, ils le tuent et ils s'en vont.
Solo así empiezan a entender la dimensión. La dimensión de las
cosas. C'est des choses comme ça. C'est comme ça que tu te rends compte de la dimension de ces choses, de cette réalité.
Exact.
Et maintenant, en regardant les autres choses qui sont passées, tous ces déplacements, mais pourquoi ?
Todos estos desplazamientos, ¿para qué? ¿Sí?
En partie pour pouvoir s'approprier toutes ces terres et tout ça, pour pouvoir générer des méga projets, des grandes cultures, pour des combustibles.
Méga projets de...
ou bien ils voulaient faire un barrage là, alors ils ne voulaient pas que les gens soient là, du coup simplement ils les déplacent.
Pues que querían hacer una represa allí, entonces no querían que la gente estuviera, simplemente la desplazaban, la modernización hacia su tal represa.
La dénationalisation
pero también la extranjerización de tierras.
C'est-à-dire qu'ils ont vendu des terres a des gens d'autres pays.
Que han vendido
et maintenant, cette terre est cultivée avec un autre type de culture países, nécessaire pues, à d'autres pays.
Entonces,
et c'est un très grand secteur qui amène des machines qui n'embauchent pas de gens. Ils les ont déplacés d'ici, c'est pas pour les embaucher.
Y esos son sectores muy grandes que traen sus insumos, traen su maquinaria y no van a contratar gente. La desplazaron de ahí, que se fuera, para no contratar, ¿cierto? Entonces yo empiezo a pensar en mi
du
país.
Du coup, moi, je commence à penser mon pays comme un grand gruyère avec des petits trous, une partie nord-américaine, une partie espagnole, et ainsi de suite.
De pedacito norteamericano, pedacito.
Parce que cette partie de terre, c'est déjà comme si elle n'était plus là.
Que ese pedacito de zona ya no es. O sea, ¿qué tipo de soberanía se puede ejercer en un territorio en donde absolutamente todo lo que está allá adentro?
Comment on peut faire avancer les choses si ce qui est dans ton pays appartient à l'autre? Quel type de survie on peut envisager avec ça? Les lois, les normes indiquent que ce qui régit ça sont d'autres pays.
La nécessité de la tierra, de la fauna, de la flora.
Claro, claro que no, claro que no.
Volvemos al tema del principio.
Exacto. Entonces, esa,
en plus, j'imagine que dans ces lieux, on ne respecte pas la nécessité de la terre, de la faune et de la flore.
Está dada por esa cantidad de territorios que están explotando.
On revient à la thématique du début. Exactement, cette perte de sécurité alimentaire du pays dont j'ai parlé existe à cause de cette grande quantité de territoires exploités, bien souvent d'une manière brutale, et par l'utilisation massive du paramilitarisme qui ont généré de grandes zones désertiques en Colombie, qui ne l'étaient pas avant.
Fauna que hay ahí que es de una riqueza, porque es una situación tan desesperanzadora. Nosotros ya tenemos una tasa de suicidio alta. Y aquí, que es el sur, que sí, que se incrementa cada día. Y se supone que estamos en el país.
Ils sont en train d'en finir avec la faune. Todas veces nos traen esa encuesta
en donde nosotros salimos ganadores como el país.
Nous avons dans le pays un taux de suicide très élevé. Pourtant, il paraît que nous vivons dans le pays le plus heureux du monde. À chaque fois, ils nous ressortent ces sondages où nous sortons vainqueurs dans le pays le plus heureux du monde. On passe notre temps à danser parce que, bien sûr, on passe notre temps à danser.
Sí, hay unos lugares en donde ha sido más intenso.
Et les violences ont lieu sur des lieux précis du pays,
pues
au sud, au nord,
dans todos los municipios del país ha habido, pero en unos ha habido muchísima más crudeza y muchísima más cantidad.
Oui, évidemment, il y a des lieux où ça a été plus intense. Il y a eu dans toutes les municipalités, mais il y a des lieux où, comme je vous disais, il y a eu plus de violences répétées, de massacres et tout ça, qui sont les zones qui possèdent beaucoup de richesses. Toutes ces zones d'exploitation minière de la côte nord ont été très touchées, par exemple.
Toutes ces zones sont des zones de réserve indigène. De indigènes qui, vous êtes ici, donc après, ils courent par là, ils courent par là, oui.
Et nous avons encore des zones où vivent des natifs. Ces zones sont des réserves de natifs. Ils sont là, et puis on les emmène par là, puis par là, parce qu'ils vont utiliser les terres. Ils les tuent, leur font toute une quantité de choses incroyables.
Porque ellas tienen sus falditas moradas, viven descalzas aquí en Bogotá. Ellas que son de tierra caliente.
Une des ethnies très grandes, les Bacatios, a quasiment totalement disparu. Les jeunes filles, vous avez vu ici, ce sont celles qui ont des jupes violettes, qui vivent les pieds nus dans Bogota. Elles viennent de là-bas, des terres chaudes.
avec leurs ornements et leurs petites choses, leurs petites vestes et tout ça. Ce sont des groupes mafieux qui les ont amenés ici pour qu'elles mendient. De nombreuses fois, ils ramènent des jeunes filles, ils les mettent enceintes eux-mêmes, pour qu'après, avec leur bébé, elles attendrissent les gens.
Desafortunadamente muestro esa realidad, claro. Porque la otra realidad pues la pueden ver ustedes en los afiches de Colombia. Y...
Merci beaucoup Mercedes. Oui, malheureusement, je vous ai parlé de cette réalité parce que l'autre réalité vous pouvez la voir par vous-même sur les affiches de Viva Colombia.
C'était un entretien avec Mercedes, économiste et urbaniste colombienne. Par souci de se protéger, Mercedes a préféré garder l'anonymat. Merci à Emmanuel pour la réalisation de cet entretien à Bogota. Offensive sonore, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve samedi 15 juin de 15h à 16h sur les ondes de Radio Zinzine X et toujours à l'improviste sur les autres fréquences de Radio Zinzine. Portez-vous bien, salut! Thank you.